Astral, un balado qui vous invite à vivre au rythme des saisons, des étoiles et de l'inspiration du moment. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où cohabitent astrologie, spiritualité, actualité et autres folies passagères. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Astral. Aujourd'hui, nous allons parler des grandes lignes de l'astrologie du mois de janvier 2024. Et oui, c'est là qu'on est rendu, de la fin du Mercure rétrograde en Capricorne et Sagittaire qui avait commencé le 13 décembre et qui se termine le 1er janvier. Bonne année! Nous allons aussi parler de la nouvelle lune en Capricorne le 11 et de la pleine lune en Lion le 25. Ce mois-ci, il n'y aura pas d'analyse de charte de personnalité connue ni de retour sur le dernier mois. Par contre, je vais quand même répondre aux questions que vous m'avez envoyées via Instagram. Tout ça parce que j'ai décidé de faire un Astro 2024 que vous allez pouvoir retrouver séparément. Donc, on se concentre ici sur le mois de janvier et puis on aura aussi un Astral 2024. Nous voilà maintenant les deux pieds en 2024. En fait, pas pour moi parce que j'enregistre le 18 décembre. Alors, les fêtes sont pas encore passées au moment que j'enregistre. Et d'ailleurs, c'est une des raisons que je voulais pas revenir trop rapidement sur le mois de décembre parce que je trouve que on n'a pas tout le picture encore de notre mois de décembre. Mais personnellement, je trouve que notre fin d'année, c'est une suite de l'énergie des éclipses hein, qui ont été vraiment fracassantes au mois d'octobre. On sent tellement le nœud nord en bélier, moi je trouve, dans le monde, pas seulement dans le monde, mais dans nos vies individuelles. Les gens sont beaucoup plus prompts, plus impatients. On peut voir toute cette énergie-là martienne qui est plus présente. Alors, on va regarder ça tout à l'heure un petit peu plus en détail. J'espère que vous avez passé des belles fêtes, que vous avez pu vous reposer, prendre du temps avec les vôtres, vous déposer la tête sur l'épaule de quelqu'un pour que ça fasse du bien. Moi, quand je reviens sur mon année 2023, qui était une année de perfection 11, en lien avec les amis, groupes, amitiés, projets, vision pour le futur, tout ça, eh bien, ça a été vraiment rempli et à la hauteur d'une année 11, justement, qui pour moi était gouvernée par la planète Mars. Ça a été beaucoup d'action et je réalise que j'arrive en fin d'année, je suis comme, ouf, boy, j'en ai fait des choses, puis j'étais un petit peu fatiguée, là, les amis. Alors, ça va être très bienvenu, le petit break des fêtes pour moi. Mais je pense aussi, comme tout le monde, hein, on ressent le poids du monde sur nos épaules, toutes les images qui nous parviennent justement depuis les éclipses, depuis le mois d'octobre, la situation catastrophique en Palestine, hein, c'est certain, mais aussi tout le reste. Hein, il y a bien des endroits dans le monde où est-ce que ça brasse en ce moment, des endroits où est-ce qu'on en entend moins parler. L'Ukraine, ça continue aussi. Et bien sûr, la Palestine capture beaucoup notre attention, mais il y a des crises à différents endroits dans le monde, à plusieurs endroits en Afrique, dont le Soudan, Burkina Faso, Mali, la Somalie, l'Haïti. L'Haïti, on n'en parle pas, mais c'est fou qu'est-ce qui se passe en Haïti, là. C'est le chaos total. Fait que, tu sais, il y a plein d'endroits comme ça qu'on parle moins, mais qui méritent notre attention. Mais il faut dire aussi que, comme je disais dans les épisodes précédents, tous ces conflits-là dans le monde ou toutes ces guerres ou situations climatique ou autre qui amène des populations entières à vivre dans des situations ultra précaires. Sinon, dans le cas de la Palestine, c'est même plus précaire, c'est de la survie, là. C'est vraiment hallucinant. Ça a malheureusement toujours existé, mais là, ça frappe vraiment plus parce qu'on a accès à du contenu de gens qui le vivent à tous les jours sur le terrain. Donc, ça change complètement notre regard sur le monde puis comment on est interpellé comme citoyen global. Tu sais, global citizen, c'est vraiment ça. Tu sais, ça me faisait penser à cette idée-là, justement, un peu spirituelle de « we are one », puis « one world »,« one love », puis tout ça. Ben c'est ça, « we are one », ça veut dire ressentir aussi la douleur des autres. Puis présentement, ben c'est ça, c'est pas évident parce que les gens, ils vont réagir à ça de différentes façons. Pour les gens qui sont ultra sensibles, c'est tellement difficile. Il y en a qui sont obligés comme un peu de fermer leur cœur. Il y en a d'autres qui se sentent appelés à manifester. Il y en a d'autres qui vont se sentir appelés à donner s'ils le peuvent. Tout le monde fait du mieux qu'il peut dans des circonstances comme ça. Mais il y en a qui vont, il y en a vraiment qui veulent rien savoir puis qu'ils vivent sur une autre planète, là. C'est un genre de négation. Quoi. On voit ça aussi avec les changements climatiques, tu sais. C'est comme, ben non, c'est pas en train d'arriver, tu sais. La crise du logement, ben non, pas de problème. Regarde, tout le monde est correct. Tu sais, il y a bien des gens que c'est ça, là. Nier la réalité, c'est un art, hein. Sont excellents là-dedans. Mais bref, tout ça pour dire que cette constatation-là qu'on a, que pour moi, c'est tellement Saturne en poisson, en plus, là, on va en parler tout à l'heure, mais toutes nos structures qu'on a bâties depuis tellement d'années, qui là, justement, sont sur des bases décrépites, si on peut dire, et en plus, ben on a aussi Pluton là, qui termine sa croisade dans le signe du Capricorne, dans le signe des institutions et de la société elle-même. Ouf! Tu sais, tout ça mis ensemble, grosse année, les amis, hein. Alors, je vous invite à vous préparer parce que 2024, ça va être un petit peu comme 2023, quoi. C'est comme, comment je dirais bien ça? C'est comme être assis à l'urgence. T'attends quelque chose, puis c'est pas clair, puis c'est pas, tu sais pas, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Donc voilà, alors je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On va tout de suite aller regarder l'astro de janvier. Donc, on commence le 1er janvier, on est toujours dans la saison du Capricorne, dans une énergie de terre cardinale, donc une énergie de nouveau commencement. Et on va passer le 20 janvier dans la saison du Verseau, dans l'élément d'air et dans une modalité qui est fixe. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer dans les premières semaines de janvier? On va venir stabiliser et enraciner par la suite dans l'énergie du Verseau. Et d'ailleurs, du moment qu'on va passer dans la saison du Verseau, l'énergie, là, elle va être comme ouf, elle va passer à un niveau supérieur. Fait que je vous dirais que les premières semaines, en fait, tout ce qui reste de la saison du Capricorne va être marqué par une énorme énergie de terre et d'eau. Et on sait que ça, c'est des énergies qui fonctionnent bien ensemble. Fait que c'est une belle opportunité en début d'année de mettre de l'avant des approches pratiques, sensées, qui sont capables d'incorporer justement notre senti, mais aussi notre persévérance, notre endurance, notre capacité à avoir un regard peut-être plus équilibré par rapport à qu'est-ce qu'on a à faire, à pas tomber dans une sensibilité qui viendrait exacerber un peu nos émotions, mais plutôt être capable justement de rester plus connecté à la tête, au Capricorne. On y va, on va de l'avant, on avance. Un peu comme le bon soldat représenté par Mars qui va être en Capricorne, qui va être exalté en Capricorne. Mais à partir de la fin janvier, vraiment, il y a une énergie un peu plus électrique. On va avoir Uranus qui passe direct et beaucoup d'action autour de ça. Donc, on va tout regarder ça en détail. On commence le mois de janvier et Mercure reprend son mouvement direct. Donc, il va repasser sur la zone où il a fait son rétrograde. Il l'a passé une première fois, il est revenu sur ses pas, il a fait ses devoirs, il est allé réviser qu'est-ce qu'il avait à réviser, il est allé ajuster qu'est-ce qu'il avait à ajuster, ses pensées, ses croyances, et il va revenir confiant dans le Capricorne, prêt à mettre à exécution son plan. Donc, il y a une énergie très forte dans ce sens-là en janvier. Si au début du mois, Mercure, justement, était encore entre les deux, en train de passer de son mode rétrograde à direct, on avait aussi Uranus qui était en mode rétrograde. Et quand on va finir le mois, on va avoir aucune planète en rétrograde. Donc, on rentre dans ce moment-là de l'année où est-ce que toutes les planètes vont de l'avant. Donc, de la fin janvier au 1er mai, toutes les planètes vont être en mode direct. Donc, c'est quand même une bonne période jusqu'au 1er mai. Ça nous donne vraiment le temps justement de faire avancer les choses. Si on trouvait que c'était très stagnant, ben là, on a cette énergie-là justement qui nous demande de regarder vers le futur et de voir qu'est-ce qu'il y a devant nous et comment qu'on peut s'ajuster et comment même on peut poser des gestes. Donc, allez-y fort, les amis, c'est vraiment le temps de pousser vers l'avant pendant cette période-là. Juste un petit aide-mémoire pour vous replacer dans le ciel. Le 26 décembre, on avait Chiron qui passait direct à 15 degrés du bélier. Le 30, on avait Jupiter qui passait direct à 5 degrés du taureau. Fait qu'il a quand même fait un bon rétrograde. Il va rentrer en Gémeaux au mois de mai, puis il va vraiment se rendre assez loin dans le Gémeaux avant de refaire un autre rétrograde. Fait que ça va être intéressant. Et on a aussi, en fin d'année, Vénus qui est rentrée en Sagittaire. Donc, c'est le fun de commencer l'année avec une Vénus en Sagittaire, bien en selle sur son cheval, galopante et prête à l'aventure, avec un amour de la liberté, mais aussi de l'espoir dans son cœur, qu'on peut en trouver des solutions. Faut juste garder l'esprit ouvert, faut continuer d'être connectés les uns aux autres. Fait que, tu sais, il y a toute cette énergie-là avec elle en ce début d'année. Alors, ça, c'est bien. Donc, pour la première semaine de janvier du 1er au 6, on le disait, Mercure passe direct. Il va être à 22 degrés du Sagittaire, donc il se prépare à repasser en Sagittaire, retourner en Capricorne. La journée même, c'est le seul aspect, on pourrait dire, difficile de cette semaine-là, c'est Vénus qui fait un carré à Saturne. Vénus qui est en Sagittaire en carré à Saturne, fait que oui, elle est sur son cheval galopant, mais là, tout d'un coup, il y a comme quelque chose qui la rattrape, là, c'est Saturne en poisson. Alors là, ça, c'est un peu comme la réalité qui nous ramène, puis qui dit wow, là, oui, là, je sais que tu veux flyer, que tu veux faire autre chose, mais regarde qu'est-ce que tu as à faire, tu as quand même des obligations. Donc, ça, c'est l'aspect peut-être un petit peu plate, mais une fois que ça s'est passé, Vénus, elle est comme « Bye, Saturne, I don't care. Live free or die! » Tu sais, là, c'est comme « Laisse-moi être! » Mais oui, c'est le seul aspect, je pourrais dire, là, en commençant. Ensuite, le 3, ça va être le dernier quart de lune en balance. Ça veut dire qu'on va se préparer à la nouvelle lune qui va être en Capricorne la semaine suivante. Et le 4, on a Mars, notre guerrier, qui rentre en Capricorne. Mars est exalté en Capricorne. Il adore être là. C'est sûr que on sait qu'on a encore Pluton en Capricorne. Il faut dire que Mars et Pluton, là, la petite danse qui se font ensemble là, présentement dans le ciel, est beaucoup, malheureusement, associée au déploiement des dernières guerres qu'on a vues. On va malheureusement souligner 2 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'invasion de la Russie en Ukraine, parce qu'il faut le dire, là, c'est pas fini. Ça s'est passé il y a 2 ans quand Mars était en conjonction avec Pluton. Et là, la même chose entre Israël et la Palestine. Il y a eu un carré vraiment important quand Mars était en balance. Il a fait un carré à Pluton en Capricorne et c'est ça, là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu comme une intensification. Donc, c'est ça. Ben, à la fin du mois, Mars va aller rejoindre Pluton. Mais cette conjonction-là, cette année, va se faire en Verseau. Et là, c'est la première fois qu'une conjonction entre Pluton et Mars en Verseau va se faire. C'est du jamais vu de notre vivant et même de faut remonter très loin pour voir cette conjonction-là en Verseau. Donc, c'est ça, là. Quel ton ça va donner au conflit? Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Mais aussi sûrement qu'il va y avoir de la nouveauté, qu'il va venir des nouveaux événements qui seront peut-être pas nécessairement reliés à des conflits ou des guerres ou des choses catastrophiques comme on a vu, mais quand même... est-ce que c'est en lien avec la technologie? C'est très possible. Est-ce que c'est en lien avec l'intelligence artificielle? C'est possible. Mais, tu sais, ça reste que Mars et Pluton, c'est vraiment les bad boys. Fait que quand ils viennent ensemble, c'est toujours comme, ouf, OK. Tu sais, c'est toujours un moment un petit peu particulier. Donc, on va voir parce que ça va être une première là, que ça se passe en Verseau. Ça va être plus facile avec du recul comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais on n'est pas encore là. C'était juste pour vous dire que le 4 janvier, Mars entre en Capricorne. Et c'est sûr que Mars en Capricorne, en dehors de tous ces trucs-là de conflits au niveau collectif, sur le plan individuel, ça donne tellement du power pour faire avancer les choses puis comme être très concentré, déterminé, discipliné surtout. Tu sais, Mars, c'est comme le soldat quand il est en Capricorne, fait qu'il est vraiment prêt et organisé. Donc, c'est vraiment aussi un rappel pour nous dire, là, organise-toi, couche-toi de bonne heure, lève-toi à une heure qui a de l'allure. Tu veux que tes choses marchent, ben tu veux te rendre là, ben fais pour. Tu sais, Mars, il nous dit, passe à l'action, mais passe à l'action d'une façon qui est vraiment comme organisée, là. Donc, voilà. Ensuite, la semaine du 7 au 13 janvier, on a vraiment une grosse énergie cardinale de Terre. Là. Beaucoup d'énergie, justement, l'énergie du Capricorne est tellement forte cette semaine-là. Fait que c'est une semaine qui peut être très productive. Oui, il va y avoir des aspects difficiles. Les aspects les plus difficiles, dans le fond, c'est Mercure qui est toujours en Sagittaire dans les derniers degrés qui va faire pour la troisième fois un carré à Neptune. C'est beaucoup un débat autour de comment chacun voit les choses. Moi, je vois ça comme ça, toi, tu vois ça comme ça, puis, tu sais, on n'est pas d'accord, fait que chez certains, ça va provoquer une genre d'évasion, chez d'autres, ça va être plus « oui, mais il faut se parler jusqu'à temps qu'on se comprenne, mais on se comprend pas », fait que, tu sais, c'est comme pas évident là, à rattraper, mais ça reste la troisième fois, fait que là, ça risque d'être plus clair dans notre tête. Toute cette énergie-là, de toute façon, on va s'en aller dans le Capricorne avec Mercure qui va passer en Capricorne. Donc, il va prendre cette énergie-là qui va être un peu moins passionnelle, mais un petit peu plus rationnelle. On est moins dans les grandes envolées comme « Ah, oui, mais moi, ouais, mais toi, ta-ta-ta ». On va ramener cette énergie-là, lui donner peut-être une énergie un petit peu plus constructive, un petit peu plus « groundée », si on peut dire. On va aussi avoir le soleil en Capricorne qui va faire un carré au nœud nord et nœud sud en Bélier-Balance. Alors là, c'est sûr qu'il peut avoir un peu de tension dans cette semaine-là reliée à ça. Tu sais, l'énergie du Capricorne qui est très forte, qui est très en contrôle, qui là vient se faire challenger, puis là, je me fais challenger de l'extérieur, il faut que je garde mon équilibre là-dedans. Fait que ça pourrait être un petit peu complexe comme énergie à gérer à ce moment-là. C'est sûr que collectivement, c'est ça, hein, c'est l'axe où est-ce qu'on a vu les éclipses. Donc, avec le soleil qui passe là, ben ça peut rajouter des tensions aussi là sur des conflits, comme je disais tout à l'heure, exemple Israël-Palestine, ça va être à voir comment tout ça se passe. Mais sinon, on a vraiment des beaux aspects dans le ciel, en plus que ça va être la nouvelle lune en Capricorne. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment une énergie de terre cardinale tellement forte. Au même moment que tout ça va se passer, bien, le soleil va aussi faire des aspects positifs à Uranus. Mars va faire des aspects positifs à Saturne. Alors, comment je peux innover pour faire fonctionner des choses dans le temps? Comment je peux avancer malgré justement des fois des situations qui sont peut-être pas faciles. Donc, c'est vraiment ça, c'est une énergie d'endurance qui est quand même très forte. Mars va faire aussi un aspect positif à Jupiter. Alors, encore là, grosse énergie de Terre avec Jupiter, qui est maintenant direct aussi, il faut le dire. Donc, Mars-Jupiter qui fonctionne ensemble, c'est comme, hey, en avant, on est capable d'en prendre, on va avancer. Donc, il y a une énergie très forte là. Et ensuite, on a Mercure qui va aussi rentrer en Capricorne à partir du 13. Donc, comme je vous dis, c'est fou, là, c'est une méga énergie dans le signe du Capricorne. C'est sûr que si vous êtes un Capricorne, vous allez le sentir, puis ça va être comme « Yeah! » Je pense que ça va vous faire du bien. Surtout qu'il y a tellement eu, tu sais, depuis 2020, il y a tellement eu des alignements pas faciles en Capricorne, mais là, ça vient vraiment donner un coup de pouce, c'est sûr, hein, tout au signe de terre, mais aussi le poisson, le scorpion, qui sont des signes qui font sextile au Capricorne. Je pense qu'ils vont pouvoir vraiment profiter de cette énergie-là. Pour le cancer qui est opposé, bien là, des fois, c'est pas aussi évident parce que c'est toute la sensibilité du cancer qui ressent au-dessus de lui comme une autorité ou qui doit marcher au pas. Puis des fois, le cancer, bien, ça ne tente pas de marcher au pas, mais là, cette énergie-là est là au-dessus de sa tête, donc il va falloir faire avec. Mais c'est certainement ces signes-là qui, dans cette semaine-là, vont ressentir cette énergie-là plus fortement. Si on regarde la nouvelle lune en Capricorne du 11. Alors, le 11 janvier, nous avons une nouvelle lune en Capricorne à 20 degrés 44 à 6h57 heure de l'Est. Donc, une méga nouvelle lune en Capricorne. On a lune et soleil à 20 degrés, comme je disais, pas tellement loin. Dans les derniers degrés, on a Pluton à 29. un degré critique que le degré 29. Hein, c'est toute l'intensité du signe qui se retrouve là. Donc, c'est ça, là, c'est la phase finale de Pluton en Capricorne qui vient vraiment mettre de la lumière où il y avait de l'ombre. Alors, c'est sûr que ça nous montre les dessous, la corruption un peu de bien des choses dans nos institutions et autour de nous, etc. On a aussi Mars, comme on disait, qui va être là, gouverné par Saturne qui, lui, est en poisson. D'ailleurs, Saturne et Mars vont se faire des aspects positifs pour cette nouvelle lune-là. Alors, comme je vous disais, il y a une certaine énergie de soutien, renforcement des limites, hein, certainement, certainement. Mais c'est ça, comme je disais, le soleil est en carré au nœud, exactement même. Donc, de quel côté je penche? Vite comme ça, on dirait que ça vient questionner notre propre autorité ou notre propre positionnement. Où est-ce que je me positionne? T'sais, est-ce que je me positionne justement du côté du bélier qui est un petit peu plus à l'attaque? Ou est-ce que je me positionne plus du côté de la balance? Non, là, je vais maintenir l'harmonie, je vais maintenir la paix. Fait que c'est vraiment intéressant de voir comment tout ça se positionne dans le ciel. Mais ultimement, le nœud nord qui est gouverné par Mars, bien là, Mars se retrouve en Capricorne, fait que c'est sûr que ça donne un certain poids, mais c'est ça le bon côté du Capricorne. Il y a ce côté-là d'être en contrôle de ses émotions, d'être capable de prendre sur soi, de se gérer, fait que c'est comme un appel à apprendre à se gérer puis à devenir un petit peu plus mature, un petit peu plus sage dans nos réactions, tu sais, devant toute l'adversité et l'incertitude de vraiment apprendre à se gérer, là, c'est vraiment ça. Fait que pour moi, je trouve que c'est une nouvelle lune très intéressante, mais c'est ça, à chaque fois qu'il y a des planètes qui font un carré au nœud nord et nœud sud, c'est comme une invitation évolutive, tu sais. Où est-ce que je m'en vais, là? Et comment je peux trouver un équilibre entre le nœud nord et le nœud sud? Des fois, il y a cette idée-là que, il faut que je m'éloigne du nœud sud, il faut que j'aille dans le nœud nord. Bien, des fois, il faut trouver plutôt l'équilibre au centre. On ne veut pas diviser les polarités, sont importantes les deux. Mais c'est certain que si tu es plus passif, bien, ça va être bon pour toi d'avoir un peu plus de bélier. Puis si tu es trop intense ou trop individualiste, un peu trop porté sur le me, myself and I, bien là, tu as comme davantage à développer ton nœud sud puis à trouver un équilibre là-dedans. Fait que ça dépend, c'est selon. Pour cette nouvelle lune, Mercure va toujours être en carré à Neptune. Et comme on disait, c'est ça, c'est encore très passionné, mais il y a tellement d'énergie en Capricorne que, tu sais, on sait ça, le Mercure, il faut qu'il se calme, il s'en va là en Capricorne, justement, tu sais, fait que c'est d'apporter avec nous toutes nos passions, toutes nos convictions, mais d'être capable de les amener avec nous et de les porter pour qu'ils puissent être applicables. Parce que si on est juste dans des grandes envolées, comme le Sagittaire est capable de faire, mais qu'on n'est pas capable de redescendre, puis après ça, d'agir ici et maintenant concrètement, mais là, ça devient problématique, ça donne rien. Tu sais, c'est juste du vent, là, ou c'est juste du feu. Tu sais, c'est ça la beauté du Capricorne. À un moment donné, il nous donne une forme à nos convictions, il donne une forme à nos passions. Alors, c'est ça l'important, le message de cette nouvelle lune-là. Et où est-ce que je me positionne par rapport à ça? Et comment ça peut être constructif plus on s'en va vers l'avant? Donc, vraiment une nouvelle lune intéressante à Capricorne, mais qui ne sera pas sans tension un peu à cause de son positionnement en carré au nœud. Et il y a Mercure qui va se joindre au Parthée en Capricorne, lui avec, à partir du 13. Si on regarde la semaine du 14 au 20 janvier, bon, là, ça, c'est une semaine très importante. Premièrement, il y a presque juste des beaux aspects dans le ciel. À part pour Vénus qui va faire un carré à Neptune en poisson le 19, le reste du mois est vraiment assez spectaculaire. Vénus qui fait un carré à Neptune, c'est comme « je veux vraiment m'évader et fuir la réalité. Donnez-moi un moment de break parce que tout me tape sur les nerfs et j'aimerais juste ça, pouvoir être sur mon cheval galopant puis me sacrer de tout. » Hein? Bon, ça va ressembler à ça. Ça, c'est le 19. Mais avant ça, on a toute une énergie le 14, le 15, le 18, le 19, qui est vraiment très, très forte. Justement, notre belle Vénus qui fait un aspect positif au nœud nord, suite à la nouvelle lune, les prises de conscience qu'on va avoir eues, ben c'est ça, je me choisis pour faire avancer graduellement mes choses, puis il faut que j'y aille avec mon cœur aussi, puis où est-ce que ça m'amène tout ça? On a aussi le soleil qui va faire des aspects positifs à Neptune. C'est comme, je le vois mon rêve, là, je le vois qu'est-ce que je veux faire, je veux, je veux pas lâcher, là, j'ai la persistance, tout ça. Fait que c'est quand même une énergie intéressante, là. Regarde, là, je vais être pratico-pratique, je vais ramener ça ici, puis je vais concentrer sur les parties de mon rêve qui sont réalisables puis que je peux commencer à mettre de l'avant. Fait que ça, c'est super bon. En plus, on a Mercure qui va être en aspect positif autant à Saturne qu'à Jupiter. Ça, c'est super. Et encore là, c'est la troisième fois qu'il va aller faire des aspects positifs à Saturne et à Jupiter, qui sont respectivement en poisson et en taureau. Fait que là, c'est toute une énergie, les bottines suivent les babines, hein, tu sais, cette expression-là. Il y a vraiment quelque chose où est-ce que je le dis, je le fais et j'y vais. Fait que tu sais, à part Vénus qui fait un carré à Neptune, comme je disais, qui est comme qui est au travers de tout ça, puis qui nous dit comme « Ah ben là, je vais abandonner, c'est trop dur, là. » Tu sais, là, qui aimerait ça que ça soit facile. Il y a quand même tout le reste d'énergie qui nous ramène, puis qui dit « Ben non, OK, c'est correct. Ça sera pas exactement comme je pense, mais c'est pas grave, je vais y aller étape par étape, puis ça va avancer. » Et là, le gros de l'affaire, c'est vraiment le 20 janvier. Ça, c'est la date que non seulement le soleil entre en Verseau, mais que Pluton entre en Verseau. Les deux vont rentrer en même temps. Quelle entrée, mais quelle entrée! Et non seulement avant ça, le Soleil et Pluton vont avoir leur dernière conjonction en Capricorne. Vous ne reverrez plus jamais ça de votre vie. Ça va arriver un jour, mais très, très, très loin, OK? Ça n'arrivera pas avant 260 ans environ. Donc, wow! Pluton et le Soleil vont se faire un dernier au revoir dans le signe du Capricorne avant de passer à autre chose. Le soleil qui représente notre vitalité, notre feu sacré, de l'énergie qu'on est venu incarner, et là qui rencontre Pluton, qui l'amène dans les profondeurs et qui l'amène à dans la transformation, puis de mettre en lumière qu'est-ce qui est dans l'ombre. C'est comme une dernière révélation avant qu'on passe à d'autres choses. Alors là, moi, je trouve ça vraiment intéressant. De plus, quand ils vont aller se rencontrer quelques heures plus tard à 0 degré du Verseau, ben là, il faut se rappeler que le 0 degré du Verseau, là, c'est devenu un point tellement important. Important parce qu'il y a eu la grande conjonction Jupiter et Saturne en 2020. Une grande conjonction Jupiter et Saturne, ça arrive aux 20 ans. Et ça fait partie d'un plus grand cycle qui s'appelle la grande mutation, qui fait que ces conjonctions-là vont se retrouver dans des signes de même élément pendant plus de 200 ans. Donc, le zéro degré du Verseau, il est comme vraiment important, puis il est important pour plein d'autres raisons. Uranus était passé là dans les années 90, c'était l'arrivée de l'Internet, puis tout ça. Là, on va avoir le Soleil et Pluton qui arrivent là ensemble. Bam, tu sais, comme wow, c'est comme une mort puis une renaissance la même journée, c'est hallucinant. Donc là, on rentre dans l'énergie fixe du Verseau comme full power, avec le power de Pluton, mais des fois c'est un power, c'est un pouvoir qui est un peu épeurant parce que c'est ça, il vient de l'inconscient, fait qu'on sait jamais trop qu'est-ce qu'il va amener à la surface. Mais reste que c'est toute qu'une entrée, puis c'est vraiment une signature importante, moi, je trouve. La lumière du soleil, quelque part, qui brille sur les profondeurs, et tout ce qui peut remonter, comme je disais. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. On a Pluton qui finalement rentre vraiment pour une plus longue période dans le signe du Verseau. Cette entrée-là dans le signe du Verseau, elle va être certainement très sentie pour les signes fixes. Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, hein, et aussi pour les signes d'air, c'est certain. Verseau, Gémeaux et Balance. C'est vraiment, vraiment intéressant là, de voir cette signature-là dans le ciel. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va vouloir dire sur le plan collectif. Donc, toute qu'une semaine, la semaine du 14 au 20. Et ensuite, la semaine du 21 au 27, ben, je vous dirais que l'action est vraiment pour le week-end du 26, 27, 28 janvier. Si on regarde du 21 au 27, ben là, Vénus qui finalement suit derrière et entre en Capricorne. Alors, chef, oui, chef! Vénus descend de son cheval galopant et là, elle rentre en Capricorne et elle va être bien occupée. Puis, dérange-moi pas, j'ai besoin de m'occuper de ceci, de cela. Et j'aimerais ça que ça se passe bien, puis j'aimerais ça que ça soit bien fait. Puis, j'aimerais ça qu'on reconnaisse mon travail aussi. Garde, moi, je vais gérer mes affaires, toi gères tes affaires. Fait que Vénus en Capricorne, c'est plus la même énergie qu'en Sagittaire. Elle est vraiment plus concentrée et désireuse de réussir qu'est-ce qu'elle entreprend. Donc, c'est une autre énergie. Et ensuite, on va avoir la pleine lune en Lion. Et oui, on est dans l'énergie du Verseau. Donc, la pleine lune va se passer en Lion le 25 janvier à 12h54 heure de l'Est à 5°15 du Lion. Donc, une pleine lune en Lion, la lune qui va être dans le signe du Lion toute seule de son bord. Le soleil, lui, va être toujours en conjonction avec Pluton. Donc, qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, cette énergie-là, un peu peut-être d'une révélation quelconque ou de prise de conscience très profonde, mais là, va être encore plus visible à cette pleine lune-là. Donc, c'est sûr qu'une pleine lune en Lion, c'est quand même plus flamboyant, plus exubérant, mais là, c'est face à Pluton. Donc, j'ai l'impression que chez certaines personnes, ça va exacerber justement ce désir-là d'être plus visible, tandis que d'autres, ça va être plus confrontant peut-être. Ils vont la vivre peut-être plus de l'intérieur. Ils vont le prendre très personnel peut-être aussi. C'est une pleine lune. C'est vraiment le temps de relâcher certaines choses. Dans le fond, c'est le soleil qui brille sur la lune. Et là, ben la lune en Lion, c'est vraiment l'expression de l'individu face au collectif. Comment je me situe face au collectif aussi. C'est toute cette énergie-là. En plus que ça va être en carré à Jupiter qui est en Taureau. Donc, il y a une énergie très, très fixe. Et ça nous rappelle justement qu'on est comme dans une zone de changement et d'adaptation. Hein? Le Pluton qui vient de rentrer en Verseau. Qu'est-ce que ça veut dire, toute cette adaptation-là? Et ben les signes fixes, c'est long s'adapter. on change pas facilement avec les signes fixes. Donc, il y a un peu un jeu là-dedans d'intégration. Fait que je vous dirais que pour moi, c'est une pleine lune d'intégrer. C'est intéressant aussi que Mercure et Mars qui sont en Capricorne vont être en carré au nœud à leur tour. Donc, après le Soleil qui va être passé là, c'est Mercure et Mars. Fait que c'est ça, il y a un peu une petite danse encore. On peut se sentir divisé en lien avec cette pleine lune-là. Mais moi, j'avais vraiment comme une énergie de relâcher certaines tensions internes, peut-être en lien avec certaines peurs qu'on traîne aussi. Ça peut être la peur d'être vu ou la peur d'être oublié ou d'être mis de côté, mais il pourrait avoir des thèmes comme ça pour cette pleine lune-là. Donc, une pleine lune qui nous amène à se renouveler et être dans une version peut-être plus encore plus authentique de nous-mêmes, peut-être mieux alignée avec le monde maintenant et pas comment on espérait qu'il soit, mais vraiment plus connectée à la réalité, j'ai envie de dire, la réalité ici et maintenant, où est-ce que j'en suis, puis comment je peux me renouveler, comment je peux être plus transparent et authentique dans cette nouvelle réalité dans laquelle on entre graduellement. Donc, voilà pour cette pleine lune. Et comme je disais, la fin du mois, wow, méga week-end, 26, 27, 28 janvier. Tout ça à cause que Uranus va finalement passer direct en Taureau, à 19°5 du Taureau. Avec Uranus qui est là, ça oblige justement à brasser les choses, à nous brasser, à faire différent, puis à casser un peu ces habitudes-là qu'on a, mais qu'on veut pas trop changer, mais aussi ça vient mettre beaucoup d'instabilité dans des choses qu'on pensait solides, que ce soit dans les finances, que ce soit dans nos valeurs personnelles même, dans notre vie de tous les jours et dans nos ressources et tout ça. Fait que là, Uranus va passer direct, fait que c'est sûr que c'est une semaine où est-ce qu'il y a plus de volatilité dans l'air, ça c'est certain. D'autant plus qu'au même moment, le Soleil en Verseau va être encarré à Jupiter. Fait que toute cette énergie-là de la pleine lune va être encore toujours là et très amplifiée. C'est vraiment un appel à dire « si je veux réussir, il faut vraiment que j'ouvre mon esprit ». C'est vraiment ça, là. Restez pas canté sur vos façons de faire, puis moi, je déroge pas, puis ça va être ça. Soyez vraiment ouvert et flexible. Ça va être super, super important. Mais dans le monde, ça pourrait être un petit peu confrontant autour de cette date-là, de cette fin de mois-là. 27, 28, 29, ben on a toujours Mercure et Mars qui font un carré au nœud, mais en même temps, ils vont faire justement un aspect positif, un trigone à Uranus. Donc, c'est un peu ça, là. Comment je peux voir les choses autrement? Comment je peux opérer dans mon quotidien autrement? Comment je peux m'ajuster? Ça devient super, super important. Mais au travers de cette période-là qui est un petit peu plus tendu, on a quand même Vénus qui fait des beaux aspects à Saturne et à Jupiter. Vénus et Jupiter, nos deux bénéfiques, vraiment cette énergie-là qui est comme très yummy. Ils se font des aspects positifs dans des signes de terre. Fait que le réconfort se retrouve vraiment dans des choses pratico-pratiques, se retrouve vraiment dans mettre la main à la pâte. Il y a comme vraiment un ajustement qui est demandé. Mais il y a un côté aussi très épicurien à ça, de dire « j'ai tellement travaillé fort, je mérite de me gâter ». Fait qu'il y a vraiment cette énergie-là aussi. Alors voilà les amis, comme vous pouvez voir, le mois de janvier, c'est vraiment un mois important où est-ce qu'il y a une énergie différente qui entre, qui nous tire vers l'avant. C'est sûr que ça nous tire vers l'avant, mais on va avoir beaucoup de résistance et on va vouloir des fois rester en arrière. Fait que c'est un peu toute cette petite danse-là où est-ce qu'on va devoir apprendre à se situer et se renouveler et trouver notre place dans le collectif. Tu sais, c'est vraiment un thème qui commence à être de plus en plus présent et qui va s'intensifier avec le temps d'ailleurs. Mais donnez-vous le temps d'intégrer. Puis j'ai envie de vous dire, on va prendre l'année pour intégrer toutes les nouvelles réalités, parfois super excitantes et d'autres qui sont vraiment dures à prendre. On va jongler beaucoup avec ça. Avant de commencer avec les questions enregistrées, je voulais juste répondre à une question qui m'a été posée par la bohème Beauté pour l'âme qui est dans le Bas-Saint-Laurent, dans la ville de Rimouski, d'où je viens d'ailleurs. Et c'était juste en jasant comme ça, elle l'a pas enregistré, mais c'est pas grave. Elle se demandait si Fortuna, c'était mon vrai nom de famille. Que si c'était le cas, que quel adon, tu sais. Mais non, ce n'est pas mon nom de famille. En tant que scorpion, j'ai un petit côté très privé. Et j'avais pas envie nécessairement d'utiliser mon nom de famille, probablement pour des raisons de réseaux sociaux, puis être capable vraiment d'avoir ma vie privée, ça c'est moi. Et sinon, ben Mélanie Fortuna, ben c'est vraiment mon nom pour tout ce qui est visibilité en ligne et tout ça. Je me garde une petite gêne dans la vie. Je suis faite de même. Des fois, j'y pense. Des fois, je me dis, ah ouais, tu sais, dans le fond, pourquoi j'utilise pas mon vrai nom? Parce que, exemple, quand j'écris dans le clin d'œil, je vais signer mon vrai nom, mais les gens, ils savent pas que c'est moi. Puis, c'est ça, tu sais, il y a des moments comme ça où est-ce que je préfère utiliser mon nom personnel. Puis d'autres fois, ben là, ça a ma signature un petit peu plus publique, si on peut dire, là, genre. Mais c'est ça, en tout cas, bref, peut-être éventuellement. Puis pourquoi Fortuna? Ben dans le fond, Fortuna, une des premières influences, c'est Dionne Fortune, qui est une sorcière britannique qui a fait partie d'une renaissance de la sorcellerie en Angleterre dans les années 50. Si vous avez écouté mon spécial Sorcières et sorcellerie que j'avais sorti à l'automne, j'en parlais. Dans le fond, elle avait écrit Diary of a Witch. Fait que, tu sais, c'est une des premières sorcières moderne qui a vraiment fait sa place in the open, dans le public, justement. Et ben Fortuna, vous connaissez mon amour de la mythologie et tout. Et c'est une divinité romaine, dans le fond, qui incarne le destin. Et aussi, ben c'est ça, tu sais, en astrologie, il y a ce qu'on appelle la part de fortune. La part de fortune qui n'a rien à voir avec fortune dans le sens de l'argent, là, c'est plus dans le sens destin. Fortune ou fortuna, bien qu'associée à l'abondance et autre chose, à l'origine, l'étymologie, c'est plus en lien avec le destin. Alors, je trouvais ça intéressant de par qu'est-ce que moi je fais dans la vie. Alors voilà, mais non, c'est pas mon vrai nom. Première question.
Chiron, il veut dire quoi dans notre charte?
Chiron est un centaure, un des enfants de Saturne, illégitime possiblement. Quand on parle d'un centaure, c'est mi-homme, mi-cheval ou mi-homme, mi-bête. Il y en a qui disent Chiron, il y en a qui disent Chiron, alors c'est selon. Mais bref, du moment qu'il est né, sa mère a mis les yeux dessus et quand elle a vu qu'il était mi-homme, mi-cheval, elle l'a abandonné en horreur parce qu'elle le trouvait répulsif. Donc déjà là, Chiron, il représente ces blessures-là de l'âme qu'on porte tous et que c'est pas de notre faute qu'on n'a rien fait pour ça. Clairement, lui, c'est en partant une blessure d'abandon et de rejet. Mais il a été rescue par Apollon qui lui a enseigné les arts, les sciences, la philosophie, la musique et aussi la médecine, surtout la médecine par les herbes. Et Chiron est donc lui-même devenu un grand enseignant. Chiron étant mi-bête, mi-humain, il nous rappelle justement comment toutes ces choses-là qui élèvent l'âme, que ce soit les arts, la musique, la philosophie, la santé, les sciences, comme toutes ces choses-là qui sont plus du domaine de l'esprit, comment nous aident à comprendre nos instincts des fois basiques, animales, parce que les autres centaures sont beaucoup plus dominés par leur nature de bête, si on peut dire. Mais Chiron, lui, est à part parce que justement, il représente cet équilibre-là entre nos instincts de base et justement comment qu'on peut s'élever et comment qu'on peut s'élever au-dessus de nos blessures. Et Chiron lui-même va aller enseigner est formé de grands sages par la suite. Donc, toutes ces parties-là où est-ce que lui a été blessé, il a été capable de les transcender pour être apprécié, aimé et même recherché. On recherchait sa présence et sa sagesse, dans le fond. Fait qu'il s'est guéri à travers qu'est-ce qu'il a pu redonner aux autres, si on peut dire. Mais éventuellement, dans son histoire, il va recevoir une flèche et cette flèche-là va lui infliger une blessure qui guérira jamais. Même s'il est immortel, il va demander, il va supplier les dieux de mettre fin à ses douleurs et tout ça. Mais il a retrouvé l'immortalité d'une certaine façon dans la constellation du Centaure. Alors, la constellation du Centaure est dédiée à Chiron ou Chiron. Donc, de cette façon-là, il continue à nous transmettre sa sagesse. C'est tout le périple de quelqu'un qui vient au monde et que du moment qu'il est né, il y a des blessures à l'âme et qu'il va devoir les transcender. Et là, lui, l'exemple que non seulement il transcende, mais il aide les autres par la suite. Et ça, c'est un rappel qu'à l'intérieur de chacune des blessures qu'on porte, il y a un don aussi. Une fois qu'on a transformé ces blessures-là, bien, ces blessures-là, justement, deviennent des dons, deviennent une cure, deviennent la médecine qu'on a besoin, qu'on est peut-être destiné à redonner aux autres. Donc, dépendamment d'où est placé votre Chiron, c'est sûr que ça représente des blessures possiblement que, comme je disais, que vous n'avez pas choisi, mais qui sont là et avec lesquelles vous devez dealer. Ça peut venir de votre environnement, ça peut venir de vos parents, ça peut venir de différentes choses, de la génétique des fois aussi. Hein. Il y a plein de raisons. Mais comment est-ce que vous allez être capable de transcender ça et de redonner par la suite? Donc, c'est beaucoup en lien avec ça, la présence de Chiron dans notre ciel. Mais ça pourrait être une belle histoire, revenir sur Chiron, faire un peu sa mythologie, parce que je ne l'ai jamais faite, puis tiens, ça me donne l'idée de faire ça, éventuellement. Deuxième question.
Salut Mélanie, c'est Chantal, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que, étant donné que je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux, comment m'affecte mon signe complémentaire ou qui m'oppose dans la roue du zodiaque, le Sagittaire? Tu sais, on est dans la belle saison du Sagittaire en ce moment. J'aimerais savoir comment ça peut m'affecter.
Bien ça met toujours justement en évidence les axes. Parce que les signes travaillent toujours avec leurs axes opposés et complémentaires. C'est sûr que le Gémeaux, Notre petit Gémeau curieux, toujours occupé à ramasser tout plein d'informations. Quand il arrive dans une énergie du Sagittaire, c'est sûr que là, il est tout obligé d'ouvrir grand parce que le Sagittaire, lui, il regarde l'horizon, il regarde très loin. Des fois, c'est trop grand pour le Gémeau et il a hâte de sortir de la saison du Sagittaire, mais d'un autre côté, des fois, ça lui permet de prendre du recul. Ça lui permet de justement dire, bon, là, c'est bien beau que je ramasse plein d'informations partout, mais comment je suis capable de faire avec le Sagittaire comme une synthèse de ça et de donner une direction à tout ce que je sais, tu sais? Est-ce que ça reste seulement au niveau de mes connaissances, de mon savoir, ou là, je l'amène vraiment sur le terrain de l'expérience? Parce que le Sagittaire veut nous amener sur le terrain. Il veut nous amener vraiment à vivre une expérience. Alors là, c'est ça qui se passe. Donc, si on est Gémeaux pendant la période du Sagittaire, il y a comme un relâchement un peu, peut-être moins dans la tête, puis un petit peu plus dans le corps, puis dans les expériences, puis de se laisser porter. Mais des fois, le Gémeaux, c'est ça, tu sais, il y a de la difficulté des fois avec ça, parce qu'il va être vraiment comme, mon attention est captée par là, mon attention est captée par là, tu sais. Faut dire que Mercure qui gouverne le Gémeaux est en détriment quand il est en Sagittaire, parce que justement, c'est trop grand, c'est trop philosophique. Le Gémeaux, lui, veut avoir des faits, là. Il veut être sûr, là. Il veut pas juste être dans les passions puis les opinions, là, parce que ça, c'est plus le domaine du Sagittaire. Il veut être vraiment dans c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est faux. Donne-moi de l'information. Je veux avoir de l'information. Je veux pas avoir ton opinion. Je veux avoir de l'information. Mais là, c'est ça. Faut aussi se faire sa propre opinion. Aller dans le Sagittaire, ben, c'est nous permettre aussi de se forger notre opinion puis revoir nos croyances aussi, puis laisser aller le côté des fois rationnel de Mercure, puis ouvrir un petit peu plus au monde jupitérien du Sagittaire, qui est un petit peu plus le monde des croyances. Voilà, j'espère que ça répond à ta question.
Coucou Mélanie, mon nom c'est Stéphanie et je suis attirée par la terre, la nature et j'aimerais approfondir mes connaissances en magie, en particulier en ce qui concerne la déesse 4. Donc, tous tes conseils sont les bienvenus. Merci.
Ah, là, ça c'est autre chose. Merci Stéphanie. Stéphanie Balance by Steffi, que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai une fois, puis aussi en consultation. Avant de plonger avec les différentes divinités, que ce soit Hécate ou Lilith ou n'importe quelle autre divinité, Artemis, peu importe, il y a une question à se poser, tu sais. Comment est-ce que je travaille avec les divinités? C'est quoi mon but? C'est sûr qu'il va y avoir plein de réponses à ça, mais dans les réponses, il va y avoir essayer de comprendre l'énergie de cette divinité-là, essayer d'incarner un peu plus l'énergie de cette divinité-là dans notre vie, développer certaines qualités ou forces que cette divinité-là est là. Donc, c'est vraiment un travail que tu entames, dans le fond, avec une énergie, si on peut dire. C'est un travail de coopération. C'est une coopération, dans le fond. Puis c'est certain que pour n'importe quelle divinité, on ne se lance pas comme ça, comme « Ah, ben là, hey, ça, j'ai vu ça en ligne, ça a l'air le fun, fait que je vais m'intéresser à ça, puis je vais me faire un hôtel, puis je vais l'invoquer. » Non. Il y a une question vraiment de respect. C'est comme dans la vie, tu sais, tu n'arrives pas chez quelqu'un puis tu dis « Hey, on est amis maintenant », tu sais, faut que tu développes une relation, faut que tu lui demandes si tu peux rentrer chez elle. Fait qu'avec n'importe quelle divinité, c'est important de se déposer devant son hôtel, si vous en avez un, ou dehors, ou en méditation, ou peu importe, en nature, où vous voulez. Puis commencer par méditer et commencer par penser à la divinité en question. Et ensuite, vous présenter. Il faut que vous vous présentiez à la divinité avec laquelle vous voulez travailler, tu sais. Puis prenez votre temps. Est-ce qu'elle veut travailler avec moi, cette énergie-là aussi, tu sais? Est-ce que c'est la bonne énergie pour moi? Fait que c'est toutes des questions importantes. Puis même avant ça, tu sais, avant de faire ces premiers pas-là, renseignez-vous sur la divinité avec laquelle vous voulez travailler. Puis, prenez pas juste une source, ça c'est tellement important. Allez voir à différents endroits, puis allez voir vraiment des sources qui sont fiables, pas juste des trucs écrits vite fait parce que c'est à la mode pour X raison. Tu sais, c'est important vraiment de s'informer, d'aller creuser un petit peu plus sur la symbolique de ces différentes énergies-là avec lesquelles on veut travailler. Et comme je disais, par la suite, ben, on prend un moment pour se déposer et se présenter à cette énergie-là. Vraiment, je suggère vraiment une méditation parce que souvent, quand on pense à une divinité, il va y avoir des images qui vont monter de notre subconscient et que là, pourraient être des images associées à la divinité. Fait que là, oups, là, vous commencez à avoir une idée que, OK, c'est ça son énergie. C'est aussi peut-être une confirmation que cette énergie-là elle veut travailler avec vous. Et c'est comme un dialogue qui s'installe au niveau de l'inconscient, si on peut dire, du conscient et de l'inconscient avec la divinité. Si on parle des quatre elles-mêmes, autant en mythologie qu'en pratique magique, si on peut dire, ou en pratique spirituelle, c'est la mère des mères. C'est la triple déesse elle-même. C'est le côté de la médaille sombre. Il y a toujours le yin et le yang. Ben, et quatre, elle représente vraiment cette énergie-là des profondeurs, cette force de la nuit. C'est vraiment une force de la nuit. Il faut comprendre ça. Elle est associée à Perséphone, qui était cette déesse qui a été enlevée par Hadès et amenée, Hadès qui est Pluton, dans le fond, qui a été amenée justement sous la Terre pendant des mois et des mois. Donc, associée à Perséphone, elle devient associée à l'enfer, ou on dit enfer, mais dans le fond, c'est les mondes souterrains et le monde des morts, dans le fond, la noirceur. C'est la déesse des crossroads, des croisées de chemin. Souvent, on va faire appel à elle justement quand dans notre vie, on est dans un croisement de chemin, qu'on sait plus notre direction puis qu'on a besoin de reprendre un certain pouvoir. C'est sûr que c'est une énergie qui se porte beaucoup à la défense des femmes, on va le dire. Mais Hécate, c'est une énergie qui est très forte puis beaucoup associée justement aux forces inconscientes qui sont à l'intérieur de nous. Mais les forces inconscientes, des fois, qui peuvent être vraiment très fortes. Tu travailles pas légèrement avec Hécate. Tu prends pas ça à la légère. Tu sais, il y a vraiment... Faut vraiment que tu l'apprivoises, puis faut vraiment que tu sois prêt à ce qu'elle manifeste justement des leçons importantes dans ta vie. Fait qu'il faut y aller en douceur. Est associée au chiffre 3 beaucoup. Les croisements de chemin, hein, justement, comme un T, dans le fond, là, va être beaucoup associé à elle. Elle va être associée aux chiens. Tu vas souvent avoir des représentations avec 3 chevaux ou 3 chiens, ou c'est vraiment son animal, le chien, là. Mais Hécate, on pourrait dire, c'est comme la première magicienne, la première sorcière, mais vraiment dans le sens noble de l'affaire, parce que c'est ça, elle connaît les secrets de la nature, elle connaît les secrets de la noirceur, elle connaît les secrets de la vie et de la mort. Elle est capable justement de passer d'un monde à l'autre. Mais c'est ça, c'est pas une énergie que tu fuck with. Je le répète, là, c'est pas une énergie qui est facile à travailler. Il faut vraiment que tu sois prêt à faire du gros shadow work si tu travailles avec elle. Il faut y aller doucement et avec parcimonie, j'ai envie de dire. Quand tu travailles avec une déesse comme elle, ben c'est vraiment de longue haleine. Tu sais, c'est vraiment un travail que tu vas effectuer dans le temps, qui va s'étirer longtemps dans le temps. Mais comme je disais, pour toute divinité ou entité, c'est tellement important de vous présenter, de s'assurer, comme dans la vie, là, qu'il y a comme une forme de consentement, que cette énergie-là, elle est fluide, qu'elle va pas à sens unique, mais vraiment qu'elle est circulaire. Puis ça, tu le sens. Tu sais, tu le sens quand tu te présentes ou quand tu entames un travail ou que tu es en dévotion. Tu vas le sentir, c'est une énergie qui fait du bien ou qui te fait sentir comme non, c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est le processus qui est vraiment important avant de commencer un travail spirituel avec ces énergies-là. Alors voilà, merci pour vos questions. On va reprendre ça le mois prochain, c'est sûr et certain. Sur ce, je vous souhaite une superbe année 2024. Je vous souhaite aussi qu'elle soit inspirée et inspirante, pleine de lumière et en avant toute! C'est tout pour cet épisode. Merci de votre écoute. Encore une fois, Merci de commenter, de partager, ça fait toujours une différence pour la visibilité. Et n'oubliez pas, ne demandez pas ce que les planètes peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre planète.